Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous propose un petit retour d'un demi-siècle en arrière pour explorer les coulisses d'un des grands événements du XXe siècle. En octobre 1962, les caméras et les appareils photos du monde entier étaient braqués sur la basilique Saint-Pierre de Rome. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a 50 ans, en effet, des cardinaux, des patriarches, des archevêques, des évêques surtout, et des supérieurs d'ordre, ainsi qu'un certain nombre d'experts et d'observateurs venus du monde entier, il y avait en tout près de 2400 prélats de l'Église catholique, se réunissent, convoqués par le nouveau pape Jean XXIII, qui a été élu 4 ans plus tôt, pour ce que l'on appelle un concile œcuménique. Nous allons voir ce que c'est qu'un concile et pourquoi on appelle celui-là concile œcuménique. Ce nouveau concile est baptisé deuxième concile œcuménique du Vatican, ce qu'on abrège en Vatican II. Il y avait eu un Vatican I, si j'ose dire, en 1869-70. Cette immense assemblée aura pour mission d'adapter l'Église au monde moderne, de pratiquer une mise à jour, en italien « aggiornamento ». Pour les fidèles, Vatican II, ce sera surtout une nouvelle liturgie. C'est la fin de la messe en latin, vous savez, l'installation du prêtre face aux fidèles et, d'une façon plus générale, la simplification des offices. Mais en vérité, ces changements ne constituent qu'un des 16 aspects d'une véritable révolution qui va s'étendre pendant 3 ans et qui a été commencée sous Jean XXIII et achevée sous Paul VI.
Et on va beaucoup parler du concile Vatican II dans les semaines qui viennent.
Ah ben évidemment, pour cause de cinquantenaire, pas encore de centenaire. Ouais. Je ne sais pas si nous serons là pour parler du centenaire, et quand même plus de chance. Je relève le défi de vous rappeler dès aujourd'hui, en moins d'une heure, l'essentiel de ce que vous devriez savoir sur le sujet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Moment sur les 4/5 de la France, eh bien ça nous met dans l'ambiance, car il pleuvait aussi à plein temps sur Rome et la cité du Vatican en ce 13 octobre 1962, date de la première réunion plénière, on appelle ça une congrégation générale, du concile Vatican II. Le concile avait été solennellement ouvert 2 jours plus tôt, le 11 octobre. Imaginez l'immense, que dis-je l'immense, la gigantesque, démesurée basilique Saint-Pierre, dont toute la haute nef a été transformée en salle d'assemblée, avec des tribunes assez élevées qui se font face de part et d'autre d'une allée centrale où siègent des milliers d'évêques, enfin des centaines d'évêques convoqués, coiffés de leurs mitres. Cette impressionnante réunion de docteurs de l'Église est présidée non pas par l'évêque de Rome, le pape Jean XXIII, mais par le doyen des cardinaux, un Français, un Lorrain, cardinal depuis 26 ans à l'époque, Eugène Tisserand, dont l'imposante barbe blanche est alors célèbre. Vous savez, le cardinal Tisserand, sur les photographies des princes de l'Église, on le reconnaît toujours de loin, parce qu'il a cette espèce de double barbe blanche assez imposante. À côté de lui, des cardinaux éminents, dont un autre Français, le cardinal Achille Liénard, bien connu des Lillois, et un Allemand, le cardinal Joseph Frings. Je cite ces deux-là, car ils vont jouer, en ce 13 octobre 1962, un rôle dont je crois qu'on peut le qualifier d'historique. Le secrétaire général du Concile vient de prendre la parole pour demander aux participants, en préambule si vous voulez, d'élire les 10 commissions qui prépareront les débats et au sein desquelles se dérouleront ces débats. Consternation sourde dans tous les rangs, tous ces évêques ne se connaissent pas entre eux, évidemment, ils arrivent des 4 coins du monde. Ils vont être obligés de choisir les membres des commissions parmi ceux qui leur sont suggérés sur des listes qu'on est en train de leur distribuer. Du reste, il y a une liste par commission. C'est un moyen, vous le comprenez bien évidemment, un moyen pour la curie, c'est-à-dire pour le gouvernement du Saint-Siège, de garder la haute main sur tous les débats. On se dit qu'en proposant des noms aux évêques et en faisant élire des commissions qui sont en quelque sorte désignées d'avance, eh bien, on contrôlera plus ou moins ce concile. Le cardinal Liénard a beaucoup hésité, nous raconte Bernard Lecomte dans un article qu'il consacre au concile Vatican II dans le remarquable périodique qui s'appelle La Revue. Vous savez, c'est assez nouveau La Revue, mais je vous invite à la lire, c'est vraiment remarquable. Le cardinal Liénard a hésité lorsque Monseigneur Garonne, qui est l'évêque coadjuteur de Toulouse, n'est pas cardinal, est venu le mettre en garde et lui dire « Mais éminence, Vous qui êtes membre du conseil de présidence, vous devriez intervenir, vous ne devriez pas laisser les choses se faire de cette façon. Lorsqu'il rejoint la table des présidents, nous raconte Bernard Lecomte, donc le lendemain matin, il a pris sa décision et alors qu'on vient de lancer l'élection des commissions, il se penche vers son voisin de droite qui n'est autre que le cardinal Tisserand, président de séance. « Éminence, n'allez-vous pas intervenir pour nous accorder un délai de réflexion ?»«
Je ne peux le faire, le programme de cette séance ne comporte aucune discussion.
Alors donnez-moi la parole, je ne le peux davantage, rien n'est prévu. Alors excusez-moi, mais je vais la prendre. »
Sans attendre la réponse de Tisserand, Liénard saisit le micro et se lève. Dominant son émotion, il suggère dans un latin parfait d'ajourner le vote afin que les pères conciliaires se connaissent un peu mieux et afin que les conférences épiscopales puissent faire connaître les noms de leurs compatriotes les plus aptes à siéger dans les commissions.
À ce moment-là, le cardinal Liénard va être soutenu par cet archevêque de Cologne, le cardinal Frings. Tous deux vont dans le même sens. « Nous soutenons la proposition du cardinal Liénard et demandons que l'élection des commissions soit reportée à mardi prochain », dit Frings. « Applaudissements vifs, prolongés, libératoires », écrit Bernard Lecomte. « Les cardinaux, les évêques, les experts sentent bien que les organisateurs du concile n'avaient pas prévu cela, qu'un grain de sable vient d'enrayer la grosse machine institutionnelle mise en place par la curie romaine et que les pères conciliaires, à leur propre surprise, viennent de prendre le pouvoir. »
Du Messie de Handel sur Europe 1. Franck nous parle aujourd'hui du Concile Vatican II. A tout de suite, juste après, un petit peu de publicité.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1. François Huguenin, qui est historien des idées, auteur des Voix de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes, disponible chez Perrin. Également avec nous, Philippe Levillain de l'Institut, historien spécialiste de la papauté vaticaniste. Il a notamment dirigé le dictionnaire historique de la papauté chez Fayard.
Vaticaniste, ainsi peut-on vous qualifier, Philippe Levillain ?
On peut dire ça, on dit aussi vaticanologue, comme on dit criminologue. La différence est un peu différente. Il y a moins de polémique chez le vaticaniste que chez le vaticanologue. Il y a quelquefois plus de savoir chez le vaticanologue que chez le vaticaniste. C'est au choix. Et bien le qualificatif est extérieur.
Une première précision terminologique utile. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour François Huguenin.
Bonjour.
Alors, j'aimerais que nous venions, si vous voulez, avant de parler du Concile Vatican II, qui est l'objet de cette émission d'aujourd'hui, que nous expliquions un peu ce que c'est qu'un concile. Il y a eu des conciles depuis les tout premiers temps de l'Église, Philippe Levillain.
Depuis le IVe siècle, le premier grand concile, c'est le concile de Nicée en 346, qui est convoqué à l'instigation de l'empereur Constantin, qui cherche dans la foi un appui à son pouvoir temporel, et qui veut, si j'ose dire, obtenir de l'Église des clarifications sur la manifestation de la foi. C'est de là que nous vient le Credo de Nicée, qui a été remanié quelquefois, dont il y a plusieurs versions, plus ou moins bonnes au demeurant, mais la grande idée que l'Église doit se réunir en conseil. Et donc le conseil aide le pape à définir la doctrine, et tous les premiers conciles, en tout cas les sept premiers, sont des conciles très difficiles du point de vue théologique et ecclésiologique. Nature de l'Église, nature des rapports entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit, etc., sont des conciles qui aujourd'hui apparaissent comme, si j'ose dire, sur des points d'épingle. Or, ils étaient nécessaires pour définir ce qu'était la réalité ecclésiale.
Et ils ont pu, pour certains d'entre eux, donner lieu à des débats très vifs au sein de l'Église, évidemment. François Huguenin.
Oui, ça n'a jamais été une chose facile. En tout cas, les huit premiers conciles, qu'on appelle conciles orientaux, parce qu'ils ont eu lieu dans les terres orientales de l'Église, qui sont quand même les terres originelles du christianisme, ont été parfois extrêmement difficiles. Je pense au concile d'Éphèse, qui a opposé très 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 fortement les chrétiens et les prélats sur la question de savoir si Marie, la Vierge Marie, était bien Théotokos, comme on dit en grec, c'est-à-dire mère de Dieu, ou si, comme le pensait Nestorius, c'était uniquement la mère de Jésus. Et donc on voit tout de suite que tous ces premiers conciles ont abordé la question cruciale qui est de savoir est-ce qu'en fait il est possible que ce Jésus soit véritablement Dieu. Et en réalité, toutes les premières hérésies, qu'on appelle hérésies christologiques, ont permis aux assemblées conciliaires de petit à petit définir, de préciser la doctrine de la foi catholique, universelle, ou orthodoxe, la foi droite. Les deux mots sont équivalents finalement à ce moment-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant de savoir, c'est que en réalité, la doctrine de la foi du christianisme, c'est construite parce que petit à petit, un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'Église ont commencé à proposer d'autres interprétations. Et donc, c'est toujours un petit peu en réaction par rapport à ces interprétations que le dogme s'est constitué.
Alors, l'un des plus célèbres conciles de l'histoire, qui a été un moment structurant de toute la pensée de l'Europe moderne, c'est le concile de Trente, évidemment, qui a duré très longtemps, du reste.
Au milieu du XVIe siècle.
Il ne dure certes pas 30 ans, non, 30 c'est la ville.
Presque 20 ans, c'est à 30 en Italie. Oui. C'est très intéressant. Bon, évidemment, les prélats, les évêques ne sont pas pendant 20 ans enfermés dans la ville de Trente. Ils viennent pour quelques sessions. Ils reviennent chez eux parce qu'il faut quand même que de temps en temps, ils s'occupent de leur diocèse. Mais il est évident que le concile de Trente, c'est intéressant parce que ça montre bien ce que c'est qu'un concile. Il y a deux visées à Trente. La première visée est doctrinale. Il s'agit de répondre à la réforme protestante, sur un certain nombre de points extrêmement importants, comme notamment la présence réelle dans l'Eucharistie, par exemple. Et puis, il y a aussi une question, et c'est très souvent le cas dans les conciles, notamment ça a été le cas dans les conciles du Moyen-Âge, il y a une question de discipline ecclésiale. L'état du clergé à cette époque, on peut le dire, est très mauvais. Il y a eu plusieurs périodes dans l'Église où ça a été le cas, mais à ce moment-là, c'était particulièrement important, et donc il a fallu faire une réforme du clergé, c'est ce qu'a fait ce concile.
Alors, le concile Vatican II était le 21e concile de l'Église catholique.
21e concile œcuménique, comme on dit.
Alors, concile œcuménique, nous allons voir pourquoi on appelle ça un concile œcuménique, et puis pourquoi on l'appelle Vatican II, c'est qu'il y a eu un Vatican I, évidemment.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Nous nous intéressons toujours sur Europe 1 au concile Vatican II, toujours en compagnie de vos invités Franck, les historiens François Huguenin et Philippe Levillain.
Alors juste avant la guerre franco-prussienne de 1870, il y avait eu déjà un premier concile œcuménique Vatican, donc Vatican I.
Oui, Vatican, parce que c'est le premier, mais il s'appelait Vatican, le concile
oui,
du Vatican.
Bien sûr, oui.
Oui, alors c'est un concile de crise. Il faut bien voir ça, ce qui n'est pas le cas de Vatican II. C'est un concile de crise parce que la papauté est en péril, elle vient de perdre la plupart de ses états, elle est menacée dans Rome. Le pape a publié une encyclique très importante, l'encyclique Canta Cura, que de soucis, en 1864, adornée d'un résumé qui s'appelle le Syllabus, qui est la condamnation aux 80 propositions du monde et des erreurs du monde moderne. Donc c'est un concile antilibéral, très conservateur, réactionnaire, défensif, obsidional même, et il y sera proclamé la fameuse infaillibilité pontificale que l'on considérera comme étant un coup d'État faisant du pape une sorte de super souverain qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, ce qui n'est pas le cas. Donc la seule personne qui s'en apercevra que c'est important, c'est Bismarck qui considérera que la papauté peut être un médiateur international.
C'est donc les évêques qui font corps autour du pape et qui essaient de sauver une papauté politiquement et militairement mise en danger. Donc,
mise en danger le 20 septembre par la prise d'Europe. Et il y a un schisme qu'on appelle le schisme des vieux catholiques allemands. Et la faillibilité d'ailleurs en France est très mal prise. Et Monseigneur Dupont ou évêque d'Orléans ne recevra pas le chapeau de cardinal à cause de ça. Mais néanmoins la papauté se redressera grâce à son infaillibilité faisant, si j'ose dire d'elle, une sorte d'arbitre de toutes les puissances. Et elle sera une grande puissance médiatrice. Elle entre dans le système des relations internationale. Mais elle est victime de ce qu'on peut appeler son obscurantisme, considéré comme tel par les libéraux.
Alors, Vatican I est un concile de crise. Vous nous disiez, Philippe Levillain, ce n'est pas le cas de Vatican II. Néanmoins, il y a une certaine improvisation, un léger flou dans les origines de ce concile Vatican II, qui a été décidé dès Pie XII, du reste. Hein.
Alors, il y avait un projet sous Pie XI qui n'a pas abouti, un projet sous Pie XII qui n'a pas abouti non plus. Et effectivement, il y a eu une inspiration de Jean XXIII, mais on peut dire que cette inspiration, elle a été quand même préparée. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas réveillé, je pense, un matin en disant, tiens, je vais convoquer un concile. Il y avait certainement, effectivement, je crois, une grande idée chez Jean XXIII, qui était que après ce 19e siècle dont Philippe Levillain vient de parler, je voudrais en redire deux mots. Le 19e siècle est un moment de crise profonde entre l'Église et la société. La Révolution française a été un phénomène d'une violence inouïe dans les terres du christianisme. Rappelons que c'est la première fois que des chrétiens, depuis l'époque des martyrs, sont persécutés sur leurs propres terres, sur leurs terres historiques. Donc c'est quand même un vrai impact très fort. L'Église réagit de manière très forte, un libéralisme qui n'est pas le libéralisme dont on parle aujourd'hui, mais qui est un libéralisme très anticlérical et très anti-chrétien. Donc elle réagit par un certain nombre de textes. Et puis évidemment, il y a toute une... Le temps passe et il y a toute une série de théologiens, de spirituels qui, dans toute la première moitié du XXe siècle, apportent énormément de choses, une nouvelle théologie, un mouvement liturgique. Et les papes antérieurs à Vatican II, dont Pie XII, s'en emparent. Mais avec Jean XXIII, il passe à l'acte. Et je crois que cet acte, il est véritablement un acte assez subtil. Et en fait, j'ai envie de dire, Vatican II, c'est subtil. C'est que Jean XXIII veut ce concile à la fois pour réaffirmer la doctrine de l'Église, de manière très très claire, fidèlement, mais de manière à ce qu'elle soit audible dans le monde contemporain. Et alors là, c'est parfois un peu la quadrature du cercle.
Il y a donc quand même bien un objet à ce concile. Le but, c'est d'adapter l'Église, en quelque sorte. Jean XXIII ne sait pas trop où il va à ce moment-là. Il y a quand même un côté un peu... Il est en train d'ouvrir la boîte de Pandore, si je puis dire, Philippe Levinant.
C'est un coup de génie, là, le discours du 25 janvier 1959 à Saint-Paul-Orléans-les-Murs, parce que l'aspiration, présentée comme providentielle, va être une des clés du concile en même temps de ses handicaps. Dans la mesure où on pensera que tout est permis. Et que la phase entrée préparatoire qui va suivre à partir de la lettre du cardinal Cardini du 18 juin 1959 ouvre les pères conciliaires, les futurs pères conciliaires, à l'expression des vœux, donc d'un programme qui est mis en œuvre très lentement, qui sera mis en œuvre par la curie romaine dans la deuxième phase, mais qui fait que la bride sur le cou ouvrira toutes les espérances. Et ça, c'est le drame initial de Vatican II. Et que l'inspiration devrait suppléer à toutes les difficultés. Et ça aussi fait que Jean XXIII mourant, en juin 1963, en apothéose, le successeur Paul VI aura beaucoup de difficultés, car il ne sera pas inspiré, lui. Il sera devant un devoir.
Et oui, car Jean XXIII va mourir aussitôt pour la première session de ce concile.
À l'intercession.
Et ce sera ensuite donc le pape Paul VI qui poursuivra le concile. Au départ, on pensait que ce concile Vatican II durerait quelques semaines ou quelques mois. Il va finalement durer 3 ans, et c'est Paul VI qui met un terme. Nous allons voir pour quelles raisons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous sommes avec Franck et ses invités au Vatican il y a 50 ans dans les coulisses d'un événement qui a secoué le monde, le Concile Vatican II.
Alors, nous avons bien compris que le pape Jean XXIII donne corps à ce concile, il le réunit. Et puis il meurt dans la première intercession, donc entre deux, parce qu'en fait on se réunit généralement à l'automne et jusqu'à Noël, hein, d'année en année, en 62, 63, 64 et 65. Alors, le nouveau pape, Paul VI, se trouve héritier en quelque sorte d'un mouvement lancé par son prédécesseur. Comment vit-il ce concile, Paul VI?
Il est vu comme un devoir, il est élu pour ça. Il était d'ailleurs logé dans les appartements pontificaux, il était le protégé de Jean XXIII. Il est avec le cardinal Suenens celui qui articule le programme du concile dans la fameuse intervention du 2 décembre 1962 où il propose cet axe fondamental, l'Église ad intra, réflexion sur elle-même, ad extra, réflexion sur ce que le monde dit de l'Église.
Oui, voilà.
Ça, c'est là que se trouve la jonction entre, je dirais, l'Église ancienne et l'Église moderne, le vocabulaire traditionnel et le vocabulaire qui emprunte aux sciences humaines, voire aux sciences sociales. Grande difficulté. Paul VI a une deuxième session extrêmement dure pour lui, très très dure, et c'est un homme un peu hésitant, c'est un homme qui est angoissé d'ailleurs. Il songe à ne pas reconvoquer le concile à la troisième session, chose qui se sait depuis peu. Il le fait par devoir, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 63, Paul VI urge le concile vers la fin, il annonce à la quatrième session qu'il y aura encore une seule, la cinquième, qui est une session magnifique.
Parce que le risque, c'est que ces évêques qui se sont habitués tous les ans à se retrouver dans des commissions, à discuter, à voter ensuite en assemblée, etc., tout ce qui est décidé par les, tout ce qui est élaboré par les commissions, prennent goût à cette espèce d'assemblée permanente et ne créent un concile ad vitam aeternam, en quelque sorte.
C'est la résurgence d'un mouvement qu'on a connu au Moyen-Âge qui s'appelait le conciliarisme et qui était effectivement l'idée que c'était plutôt la collégialité des évêques qui devait prendre le pas sur le pape. Il est assez intéressant de voir que ce mot de collégialité...
En fait, quand on donne le pouvoir à une assemblée, si je puis dire, ça fait penser aux états généraux en France en 1789.
C'est exactement ça.
On
le compare souvent à ça, et d'ailleurs l'événement dont nous avons parlé 2 jours après l'ouverture du concile, qui repousse la nomination des membres des commissions, ressemble un tout petit peu à ce qui s'est passé avec le
serment
vote
du jeu de paume.
Absolument, avec le vote des trois ordres, ou pas. Enfin, on a pu le comparer à ça. En tout cas, c'est un élément fondateur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée que les évêques doivent primer sur le pape, cette idée de collégialité, elle est importante autour du concile, mais dans les textes du concile, n'est pas si présente. Et par exemple, Lumen Gentium, qui est voté à la fin de la troisième session, texte de constitution dogmatique sur l'Église, qui est voté à la fin de la troisième session, en 64, est un texte qui, dans son chapitre 3, rappelle bien sûr l'importance du Collège des évêques, mais dit bien, rappelle aussi l'autorité principale du pape. Donc, vous voyez, il y a évidemment des tendances un petit peu différentes qui se juxtaposent dans ces textes conciliaires.
Alors, le but du concile était de rendre l'Église moderne, en quelque sorte, de l'ouvrir sur le monde, de la réformer intérieurement et de l'ouvrir sur le monde. Est-ce qu'on peut résumer ça comme
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Mais alors, je dirais que le but du concile est partiellement atteint, parce que les 16 documents conciliaires que vous avez peut-être nommés tout à l'heure sont d'une hiérarchie tout à fait inégale.
Oui.
Et surtout, le drame de ce concile, c'est le rôle de l'opinion publique, qui, dès la séance du 11 octobre, avec un cortège de 3 km, fait entrer l'opinion publique avec les caméras dans le concile. Et on peut dire que le résultat de ce concile, qui est un grand concile par certains aspects, qui n'est plus lu, parce que c'est un concile qui articule une pensée d'autrefois avec des termes nouveaux, et la jonction par le latin ne se fait pas forcément très bien, c'est que c'est un succès pour la papauté. Et ça, on ne l'a pas vu. On a pensé que c'était un succès d'assemblée, que c'était un succès de la collégialité jamais nommée. On a pensé que finalement, il y aurait une sorte de conseil permanent. Le synode actuel en est la preuve. Mais le pape, Innocent Paul VI, gagne en termes de magistère et d'autorité. Et ce sera illustré par la fameuse élection inattendue et providentielle de Jean-Paul II, qui fera passer le pouvoir du pape et le magistère dans les médias. Et ça, c'est un des fruits du concile qui n'était pas attendu.
Vous avez été témoin de la clôture du concile, vous, en 1965.
J'ai été témoin de la clôture superbe du 8 décembre 1965 par un jour superbe, Franck Ferrand, qui faisait contraste avec celui du 11 octobre. C'était fabuleux, avec les 7 messages au monde remis par le pape, notamment un à Jacques Maritain, ancien ambassadeur de France, au lendemain de la guerre. Et c'était une séance d'enthousiasme. Le concile a le sentiment qu'il avait accompli son œuvre. Et le temps y prêtait. Les cérémonies religieuses au Vatican sont articulées sur le temps, aussi bien les grandes funérailles que la fin du concile. Et c'était un concile de l'espérance. Seulement, il n'a pas répondu à l'opinion publique. Et l'opinion publique, j'y reviens, était très demandeur. C'est pour ça que ce que dit notre ami Huguenin à propos du conciliarisme est vrai et faux. Parce que l'opinion publique attendait, notamment dans le domaine de la morale, des solutions pratiques. Et les évêques n'avaient qu'une idée, c'est de rentrer chez eux.
Merci beaucoup Philippe Levillain. Je sais que vous êtes en train d'écrire en ce moment sur le Concile et que ce sera publié au printemps 2013.
Absolument.
Voilà, nous attendons ça avec impatience. Merci beaucoup François Huguenin.
Merci.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les voies de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes ». C'est publié chez Perrin. On peut le trouver actuellement en librairie très facilement. Merci à vous deux. Je vais essayer de résumer dans les minutes qui viennent quelles ont été les conclusions de ce concile. Et puis ensuite, nous entrerons dans les coulisses d'un événement évidemment très particulier.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit consacré maintenant aux conclusions du Concile Vatican II, Franck.
Oui, c'est ça. Ce sont plutôt des conclusions qu'un récit aujourd'hui. C'est une émission un peu spéciale, vous l'aurez remarqué, puisque
oui. Je
commence ce fameux récit à 40.
Un petit peu décalé.
Alors, vous savez, le pape Jean XXIII, lui-même, nous l'avons bien compris, ne savait pas exactement ce qu'il ressortirait du Concile. D'ailleurs, un visiteur qui lui avait demandé « Qu'attendez-vous du Concile ?» On était au tout début, là, on était en 1962. Il a répondu « Oh, je ne sais pas très bien. » Puis il s'était approché de la fenêtre, il avait ouvert la fenêtre de façon assez théâtrale en disant « Au moins de l'air frais ». Nous avons vu que son successeur, le pape Paul VI, avait été un temps circonspect. Il n'en a pas moins qualifié le concile, je cite, « d'un des plus grands événements du christianisme et même de la vie religieuse de l'humanité ». C'est un événement dont on a d'emblée conscience de l'extrême importance. Alors, il se trouve que le cardinal Danielou s'est exprimé sur ce concile très peu de temps après. On était un an et demi après la clôture, donc au milieu de l'année 1966. Il dit qu'en fait, il y avait participé en tant qu'expert. On ne réalise pas ce qu'a pu être pour un évêque le fait de se voir pour la première fois mêlé à 2200 autres frères dans l'épiscopat, disait-il. De session en session, il s'est opéré un phénomène de condensation par lequel tous ces évêques ont pris une conscience progressive de leur unité et de leur mission commune. Ils n'étaient pourtant pas coulés dans le même moule. Ils appartenaient à des nations dont les conditions humaines et religieuses étaient loin de les rapprocher, bien mieux que dans un congrès ou dans un parlement. On sentait, à travers les votes successifs, se forger peu à peu une convergence de vues qui se présentait non comme l'écrasement d'une minorité par une majorité, mais bien comme le dégagement d'une vérité unique et qui appartiendrait à tous. C'est peut-être une vision légèrement irénique de la situation, mais je pense qu'il y avait effectivement une dynamique, en tout cas, s'est créée. Alors,
La grande question de ce concile, vous l'avez compris, c'était la position de cette Église encadrant des centaines de millions de fidèles et cette position de cette Église par rapport au monde moderne. Les commissions préparatoires au concile n'avaient pas prévu un texte spécial concernant la position de l'Église en face des problèmes du monde moderne, dit Danielou. Il s'avéra cependant dès le début qu'il était impossible que de telles assises se réunissent sans que les problèmes posés par l'évolution de la civilisation soit évoqué. Alors, nous l'avons dit, ou en tout cas évoqué tout à l'heure avec François Huguenin et avec Philippe Levillain, en vérité, 16 textes seront adoptés au cours des différentes sessions, des 5 sessions de ce Concile Vatican II. La première, c'est la constitution dogmatique sur l'Église. En fait, c'est très important parce que c'est la définition que l'Église donne d'elle-même qui évolue. L'Église abandonne une définition hiérarchique, institutionnelle, pour se présenter comme un peuple rassemblé par Dieu, mais n'étant pas détenteur, en quelque sorte, de ce peuple. Le deuxième document, c'est la constitution dogmatique sur la révélation. Ça nous entraînerait ça peut-être un peu loin dans la théologie. Je passe à la troisième, au troisième texte fondamental, celui de la liturgie, évidemment, qui va jouer un rôle très important et qui va être l'événement majeur, en tout cas pour les fidèles de ce concile Vatican II, puisque c'est à ce moment-là qu'on se met à organiser la participation consciente, la participation active de tous les fidèles à la messe, et notamment c'est l'abandon du latin au profit des langues vivantes de chaque pays. Donc ça c'est très important et ça a été très critiqué, évidemment. La constitution pastorale, c'est le quatrième texte, est très important, c'est le fameux texte Gaudium et Spes, hein, l'Église dans le monde de ce temps. Ça c'est fondamental sur le dialogue de l'Église et du monde actuel, en quelque sorte. Une Église qui va s'ouvrir aux questions politiques, sociales, culturelles, aux problèmes économiques, à la sauvegarde de la paix. N'oublions pas que le concile s'est ouvert en pleine crise des missiles de Cuba, hein, que donc on pensait vraiment beaucoup aux questions de guerre et de paix à cette époque. Je dirais qu'on pourrait y repenser aujourd'hui. Les textes suivants. Pour le moins aussi important, mais je suis obligé d'aller un peu vite, le décret sur la charge pastorale des évêques. Donc ça, c'est l'organisation en quelque sorte des diocèses, c'est fondamental. Décret sur le ministère et la vie des prêtres, sur la formation des prêtres, sur la vie religieuse, sur l'apostolat des laïcs. Ça, c'est très important. C'est l'intégration très importante, très active des laïcs à la vie des églises. On a vu depuis à quel point ça s'est développé. Puis également un décret sur l'activité missionnaire de l'Église, qui est loin d'être oublié dans ce Concile Vatican II. Un autre sur les églises orientales catholiques. C'est très important, on reconnaît solennellement les particularités de l'Orient dans les églises orientales qui font partie de l'Église catholique. Un décret sur l'œcuménisme qui a marqué son temps, littéralement, le dialogue avec les autres églises chrétiennes. Il y a également une déclaration sur l'Église et les religions non chrétiennes. On est au début du dialogue entre les religions. Un décret sur les moyens de communication sociale. Alors là, celui-là, il a fait le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait l'unanimité. C'est sans doute le plus mauvais, disent les spécialistes du Concile Vatican II. Mais enfin, c'est sur les relations entre l'Église et les médias, pour aller un peu vite. Également un peu bâclé peut-être la déclaration sur l'éducation chrétienne. On a changé son titre. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait « Des écoles catholiques ». Et puis finalement, on va vers l'éducation chrétienne. Voyez bien l'état d'esprit général qui anime et sous-tend ce concile volontairement moderniste et volontairement axé sur une idée d'ouverture, de modernité, d'adaptation, bien entendu. Et puis, les deux derniers textes dans l'ordre, hein, déclaration sur l'Église et les religions non chrétiennes, je viens de vous en dire un mot, et puis la déclaration sur la liberté religieuse. Ça, c'est assez nouveau, puisque, quand je dis assez, c'est très nouveau, puisque le concile déclare, je cite, que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Donc, ça, c'est faire preuve de la part de tous les évêques réunis à Rome, d'une incroyable ouverture d'esprit. On est en 1962, je le rappelle. La réforme liturgique n'a pas été sans susciter des réactions, rappelle le cardinal Danielou que je citais au début de ce très rapide résumé. Mais il faut dire que dans l'ensemble, elle a créé un renouvellement d'une vie liturgique qui était souvent sclérosée. Et Danielou nous dit que finalement, on s'est beaucoup concentré sur ces questions liturgiques, mais que ce qu'il y avait peut-être de plus important, c'était l'évolution de la perception que l'Église avait d'elle-même et cette espèce de volonté conciliariste dont nous disions un mot mot tout à l'heure, c'est-à-dire cette aspiration à un certain nombre d'évêques plus modernistes que leurs confrères à aller vers un gouvernement collectif de l'Église. Ça, ça a posé problème et ça n'a sans doute pas été la moindre des difficultés qu'ont eu à résoudre Paul VI et ses successeurs.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec votre nouvelle invitée sur Europe 1, Christine Pedotti, qui est écrivain et éditrice, auteur de la bataille du Vatican 1959-1965 chez Plon, Franck.
Bonjour Christine Pedotti, merci de nous rejoindre. Alors, ce que j'aimerais avec vous, c'est que nous entrions un peu, depuis le temps que je le promets à nos auditeurs, dans les coulisses de ce concile. On l'a dit, on en a dit un mot tout à l'heure, mais évidemment, ça dure officiellement 3 ans, hein, d'octobre 1962 à décembre 1965, mais on n'est pas réunis en permanence à Rome, pour commencer.
Non, alors ils se sont réunis pendant 4 automnes. Ça, c'est un caractère inattendu, parce qu'au début, ils pensaient qu'ils seraient là pour quelques semaines. Et de fait, ils vont s'asseoir 169 fois, 169 matinées dans Saint-Pierre de Rome, dans les grands gradins qui ont été élevés au milieu de la nef, tous les matins, de 9h à 12h30. Pour y discuter.
Discuter les textes préparés par les fameuses commissions.
Voilà, hein, absolument, pour y entendre des déclarations qui, pour l'essentiel, étaient en latin. Ce qui va d'ailleurs leur apprendre que le latin, c'est une langue universelle quand elle est lue, quand elle est écrite, mais qu'elle est beaucoup moins universelle quand on l'entend. Parce qu'évidemment, le latin de Caracas, le latin de Tübingen et le latin de Milan ne sont pas les mêmes.
Nous avons des prononciations latines fantaisistes et différentes en fonction des pays. Et puis, les prélats maîtrisent, disons-le, plus ou moins bien le latin. Certains parlent couramment, d'autres nettement moins couramment. Alors, comment fait-on dans ces cas-là? On traduit? On passe à l'anglais ou...
Alors, on n'a pas traduit au concile. Hein, donc, de fait, ils avaient des experts, ils avaient des théologiens qui étaient, aujourd'hui, on dirait des sherpas. Comme dans les sommets internationaux, qui leur faisaient des petits billets en latin. D'ailleurs, le cardinal Liénard, dans l'épisode que vous avez raconté, il avait eu son petit billet en latin qui avait été rédigé par le monseigneur Garonne pour pouvoir prendre la parole dans ce latin fluide qui était nécessaire pour se faire entendre. Mais quand on leur donnait des consignes, on leur donnait dans les grandes langues du concile, donc on leur donnait en italien, en anglais, en allemand, en espagnol et en français.
Ce qui était bien la preuve
que déjà le latin n'était plus si universel que cela.
Alors cet événement a été un événement très important à l'intérieur de l'Église et puis pour les relations des évêques entre eux, on va y venir dans un instant, mais disons tout de suite que ça a été un événement majeur à l'extérieur de l'Église et notamment, on a un peu tendance à l'oublier 50 ans plus tard, mais ça a été un événement médiatique majeur. Voilà comment sur l'antenne d'Europe 1, à cette époque on disait Europe numéro 1, voilà comment on relatait l'ouverture du Concile. On est donc le 11 octobre 1962.
Il est 8h30, les nuages ont disparu du ciel est bleu, le soleil illumine la place Saint-Pierre, sur cette place, maintenant, 20 000 personnes. Les petites cloches que vous venez d'entendre donnent le signal à toutes les cloches des églises catholiques du monde. Ce cortège avance très lentement, il fait 4 km de long. Le père le plus âgé est centenaire depuis 3 mois. Le père le plus jeune, à 34 ans, c'est un évêque du Pérou.
Je ne sais pas si c'est la voix de John Passetti ou celle de Christian Bernadac, mais en tout cas, c'est un journaliste d'Europe 1 qui parlait depuis la place Saint-Pierre. Il y a énormément... Enfin, les magazines font leur une sur le sujet, etc.
C'est un événement médiatique considérable. Finalement, au Concile, il y a eu, outre l'Esprit Saint, qui est en général invité et qui est là, l'opinion publique mondiale s'est invitée au Concile. D'abord avec des progrès technologiques, puisqu'il y a le satellite Telstar qui permet que des images soient diffusées dans le monde entier. Et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est le premier grand événement mondial, hormis les guerres. Ça fait la une des journaux du monde entier, en France, mais aussi à l'étranger. Le très élégant et très chic New Yorker aura même une taupe au concile que les services du Vatican vont rechercher pendant 4 saisons sans le retrouver. Donc c'est presque un roman à l'intérieur du concile. Et donc ça a fait la une absolument de tous les journaux. C'est un événement qui a passionné révolutionner le monde.
L'Église entre dans la modernité et alors, chose extraordinaire, pour la première fois, un pape va traverser l'Atlantique. Paul VI s'en va faire un grand discours à l'ONU à la fin du Concile.
Oui, c'est un événement qui appartient pleinement à l'épisode du Concile. Et Paul VI s'envole pour New York le 5 octobre 1965. Il va à l'ONU, il va faire un discours comme un chef d'État. Et d'une certaine façon, on a oublié depuis avec Jean-Paul II cette longue figure d'un pape en blanc. C'est la première fois, enfin Paul VI avait déjà fait deux voyages en avion avant celui-là, parce qu'autrefois, précédemment, les papes ne sortaient pas du Vatican. Et là, Paul VI sort.
Il était allé en Terre Sainte déjà.
Il était allé d'abord en pèlerinage en Terre Sainte, ensuite il était allé en Inde, et son troisième voyage, c'est pour l'ONU, où il va prononcer un discours en français, absolument émouvant, dans lequel il dira plus jamais la guerre, plus jamais la guerre. Il fait l'aller-retour en 30 heures. Il rentre et il va directement à la basilique Saint-Pierre où il se présente au Père. Et le voyage de Paul VI à l'ONU appartient au cycle conciliaire.
Alors, les évêques ont appris à se connaître dans les buvettes, si je puis dire, du concile. Hein, il y avait des bars.
Il y avait des bars dans la basilique, absolument. Vous savez, c'est long, hein. Ils siègent de 9h à 12h30. Donc, il faut de temps en temps qu'ils se dégourdissent les jambes. Et cette conscience conciliaire, elle va naître dans les bas-côtés de Saint-Pierre.
Alors, vous posez la question dans un ouvrage qui paraît chez Talandier. Faut-il faire Vatican III? Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, répondre à une telle question, Christine Pedotti?
Eh bien, disons que 50 ans à la vitesse à laquelle vont les événements dans notre monde et compte tenu des changements, ça me semble d'abord un délai raisonnable. Les changements de notre monde sont très important. Il y a des questions que le Concile n'a pas abordées, en particulier toutes les questions anthropologiques. Toute la question écologique, le Concile l'ignore totalement. Donc ça fait quand même des raisons extrêmement importantes. Donc je pense qu'il est largement temps de reconvoquer un Concile qui à la fois validerait...
Il faut savoir si Benoît XVI est très ouvert à ce genre de réunion.
Enfin bon... En tous les cas, pour l'instant, Jean XXIII avait 77 ans quand il a convoqué le Concile. Benoît XVI en a 85. Peut-être qu'il faut attendre la fois suivante.
Les éditeurs nous gâtent en ce cinquantenaire puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le Concile. Je ne peux pas tous les citer, mais vous les retrouverez sur le site internet d'Europe 1. Et puis, je voulais vous signaler un nouveau feuilleton, une série télévisée sur Arte. Qui s'appelle « Ainsi soit-il ». C'est l'histoire de jeunes prêtres qui entrent au séminaire. Et c'est à partir de jeudi prochain, le 11 octobre, donc sur Arte, cette série. A été d'ailleurs élue la meilleure série française de l'année au festival Series Mania 2012. Et puis au Théâtre du Rond-Point, samedi après-midi, on lira des textes du Concile Vatican II chez Jean-Michel Ribes. Comme quoi tout arrive.